Les graines, les particules et la lune. Un film écrit et réalisé par Dune Dupuis. Un documentaire dans lequel Booba, en perte d'amour, part à la rencontre d'amoureux du vivant. Cette rencontre avec un groupe d'agriculteurs en biodynamie l'emmènera dans une quête poétique à travers des mondes insoupçonnés à la rencontre d'humains proposant d'élargir notre perception du vivant. Dune Dupuis a accepté l'invitation d'Antenne Doc et est venue dans nos studios pour nous présenter son film, Les graines, les particules et la lune. Mais avant de lui tendre le micro, écoutons un extrait de son film.
Je m'appelle Booba, je réalise des films. Mais depuis que mon mec m'a plaqué, je ne réalise plus grand-chose. À vrai dire, je me demande même si la vie a un sens. Mais apparemment, non.
Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, pouvons-nous nous passer des pesticides? Le débat sur les dangers des pesticides est relancé depuis l'arrêté interdisant les pesticides à 150 mètres des habitations par le maire de Langouette, ou plutôt leur épandage d'ailleurs.
Démocratique, le moment est venu de s'opposer à cette machine de guerre, car c'est une machine de guerre. Et en effet, si on ne réagit pas maintenant, quand je dis maintenant, c'est aujourd'hui,
C'est trop tard, ça fait longtemps qu'on le dit. Mais comme personne n'a réagi dans les...
Surtout des vaches fistulées. C'est-à-dire avec un hublot de 15 à 20 cm sur le flanc.
Pour ce technicien, la panse d'un bœuf est une source de savoir dans laquelle il puise abondamment. Dans cette écuelle, il y a déjà la promesse des biftecs de demain.
Sauf que pour avoir plus de biftecs, il faut que les vaches produisent plus de viande. Et pour qu'elles produisent plus.
Je suis arrivée à la conclusion que la vie n'a aucun sens. Et beaucoup de scientifiques sont d'accord avec moi. En fait, l'univers n'est qu'un amas de matière inerte, errant, sans but. Vous, les vaches, et moi-même, ne sommes que des assemblages aléatoires de composants élémentaires. L'un des pères de la biologie moléculaire a même écrit... Nous ne sommes que des paquets de neurones perdus dans l'immensité indifférente de l'univers. Cette vache, en faisant irruption dans ma vie, en a fait dévier la trajectoire. Avec elle, il y avait des humains qui parlaient de cultiver la terre avec autre chose que de la matière. Il fallait que je parte en quête d'explication. Cette aventure a creusé une brèche en moi, comme un trou noir qui m'aspirerait vers de nouvelles dimensions. Et les choses que j'ai vues sont tellement étonnantes que je me dois de vous les raconter.
Je suis en compagnie de Dune Dupuis. Bonjour Dune.
Bonjour William.
Je te reçois avec plaisir pour nous présenter ton nouveau film, La graine, la particule et la lune. Un super film que j'ai regardé à l'instant. Là, je sors tout juste de la vision de ce film. Un documentaire qui nous amène du macroscopique au microscopique et qui nous pose une question sur le sens de la vie. C'est une belle manière d'introduire Dune.
Ah oui, c'est très bien. Alors c'est les particules et la lune. Il y a plusieurs particules.
C'est vrai qu'il y a plusieurs particules. Alors dans ce film, on va parler de biodynamie essentiellement, mais tout d'abord il y a un petit point de départ, tu nous parles d'une vache au début de ce film et je voudrais peut-être commencer comme ça. Parle-moi de cette rencontre avec cette vache qui, j'ai l'impression, ouvre la voie sur la suite du film.
Alors en fait la vache c'est un animal très important dans l'agriculture biodynamique, mais parce que notamment elle apporte la bouse, la fameuse bouse de corne, une bouse de vache qui a été brassée, dynamisée. Qu'ils vont mettre dans des cornes, ils vont enterrer ces cornes avant l'hiver, les ressortir au printemps, et la bouse à l'intérieur des cornes s'est transformée en une substance un peu magique, enfin un super fumier en fait, qui va ensuite être excellent pour la vie des sols. Donc c'est un animal emblématique de la biodynamie, et cette vache-là était vraiment très belle, donc elle m'a inspirée.
Elle t'a inspirée après la suite de ce film. Alors, tu parles justement voilà, de cette histoire de cornes, de bouses de vache. Et on commence par rencontrer des gens. Ils ont l'air un peu bizarres, comme ça, de prime abord. Ils ont l'air d'avoir des rites où on... Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est de l'agriculture? Comment t'as vécu, toi, cette rencontre avec cette pratique?
Effectivement, ça peut heurter, ça peut choquer certaines personnes. C'est assez étonnant. Moi, j'ai tout de suite trouvé ça très beau et très attirant, très beau visuellement et puis mystérieux, donc intéressant.
C'est vrai que c'est mystérieux. On se pose la question quand on les voit faire l'espèce de boudin de camomille, qu'on les voit les enterrer, on se demande mais où est-ce que ça va tout ça? Quelle est leurs intentions? Et quand on pense à ça, qui va nous faire après, donc, va permettre de faire de l'agriculture, et quand on pense aux techniques d'agriculture qui existent, qui mettent la planète à mal, c'est sûr que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus poétique à regarder.
Ouais, alors du coup, la biodynamie, c'est vraiment un extrême du spectre. Si on prend l'agriculture conventionnelle avec des engrais et des pesticides, la biodynamie, c'est vraiment à l'autre extrême. Parce que c'est une agriculture bio. C'est une agriculture bio, mais c'est beaucoup plus que du bio, puisqu'il y a cette sensibilité très particulière à des énergies subtiles, en fait, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais qu'on imagine être là. Et toutes ces transformations qui ressemblent un peu à des rituels qu'ils font ont été faites et refaites par plein de gens, dont Steiner. Et ils ont vu qu'il y avait vraiment des résultats sur la santé des plantes, la vie des sols, etc. Mais ça fait appel à autre chose que la rationalité. Ça fait appel à plein de choses, à des perceptions autres.
Oui, ça me fait me rendre compte qu'à chaque fois qu'on se pose une question, on se rend compte qu'on n'en sait rien finalement, qu'on en sait moins. Plus on apprend une chose et plus on se rend compte qu'on sait peu de choses. Et c'est un peu ce qui se passe avec cette histoire d'invisible, hein, que tu rends visible, et des poignées de terre qu'on voit comme ça, qu'on n'a pas l'impression, et hop, quand il y a un gros plan qui se fait dessus, c'est tout un univers qui s'ouvre à nous, finalement. Tu vas beaucoup faire rire quand tu dis, t'aurais jamais cru, je crois que c'est sur un insecte jaune, je l'ai pris dans mes notes, tu ne pensais pas pouvoir avoir autant de gratitude pour une bande de 1000 pattes jaunes fluo.
Oui, parce qu'en effet, quand on regarde au microscope, j'ai eu la chance de rencontrer Claude et Lydia Bourguignon, donc ils sont un couple de microbiologistes, qui sont connus dans le monde de l'écologie pour défendre les pratiques vertueuses comme le bio et la biodynamie, et qui, eux, sont des scientifiques, pour le coup, donc on peut voir au microscope les résultats de ces pratiques. Et donc, on voit qu'il y a des milliers d'organismes, en fait, de toutes les tailles. Et là, on voyait des micro-insectes qui sont de toutes les couleurs. Enfin, c'est assez étonnant comme monde. Et effectivement, l'idée principale du film, c'est d'essayer de filmer l'invisible, c'est-à-dire essayer de montrer ce que nous, avec nos perceptions d'humains qui sont limitées, on ne voit pas. Et donc là, sous l'œil d'un microscope, on découvre un univers dans une poignée de terre.
Alors là, au passage, je voudrais quand même saluer le travail de bruitage qui est fait, hein, pour donner encore plus vie à cet amas grouillant là, qu'on a devant nous. Ça dû être une sacrée aventure aussi dans la réalisation du film.
Alors ça a été génial. C'était la dernière étape de fabrication, donc la post-production, elle a eu lieu à l'automne dernier. Été-automne dernier, en 2020 donc. Et j'ai eu la chance de travailler avec... Alors il s'appelle Edward Brebner, c'est un jeune compositeur qui travaille le son, et on a travaillé en studio pendant 10 jours et on s'est amusé comme des fous. Enfin moi j'ai adoré découvrir ce que c'était, j'avais jamais fait de bruitage, de sound design et tout ça. Et on s'est régalé à donner de la dimension, de la texture à ces mondes invisibles. Il fallait créer un univers sonore et on s'est amusé, c'était génial.
Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt épatant. Comment, avec autre chose, on fait une certaine chose. Comment, avec un bout de journal, par exemple, on arrive à faire du bruit. Ou avec des plaques de gravier, des trucs dans ce genre.
Ouais, l'univers du bruitage, c'est génial. Et là, pour te dire, qu'est-ce qu'on a utilisé? Des choses très simples. On a beaucoup fait des sons à partir de sa guitare, à partir de nos voix. On a fait des chuchotements, on a modifié un peu des voix. On a utilisé des trucs qu'on trouvait dans la nature, des petits cailloux, des petits bouts de bois, vraiment des feuilles, des trucs hyper simples.
Ça, c'était donc pour la partie bruitage sur ces moments, on va dire, de gros plans sur ces amas grouillants de vie là, qui sont là. Alors après, dans l'invisible aussi, il y a tout un point sur la lumière aussi qui est fait à un moment donné. On a ce monsieur qui danse là dans les images, dans ses vignes qui sont superbes. Ça, pareil, il peut paraître fou, mais il n'est pas si fou que ça, ce monsieur.
Bah, il n'est pas si fou que ça parce qu'il fait du vin depuis très longtemps et il gagne sa vie avec. Et il fait un vin qui est reconnu, donc avec ses pratiques étonnantes de la biodynamie. C'est quelqu'un qui a complètement les pieds sur terre et qui mène son entreprise de vigneron, j'ai envie de dire, tout en ayant cette sensibilité très poétique et très ouverte au subtil. Et effectivement, il est vigneron et il danse aussi. Donc, je l'ai filmé en train de danser dans ses vignes. On pourrait se dire que c'est une sorte de rite d'invocation, mais en fait, c'est juste qu'il danse dans les vignes.
C'est tout.
Et après, le spectateur va se raconter quelque chose avec ça.
Ah, ça, c'est intéressant, parce que moi, je me suis moi-même raconté ma propre histoire, du coup, en voyant ces images-là. Alors, comment ça s'est passé, ces rencontres, pour toi, avec tous ces gens-là? Comment, on va dire, sur la première partie du film, avec donc ce groupe de personnes qui enterrent soit des cornes, des crânes, enfin voilà, on voit des choses un peu bizarres, comme ça. Comment ça s'est passé, toi, avec eux?
Eh bien, ça a été plusieurs années de recherche et de rencontres. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de paysans et paysannes dans le Lot, en Aveyron. Je suis allée à leur rencontre, hein, comme je dis dans le film, j'ai passé du temps avec eux, j'ai fait ces préparations avec eux, j'ai lu le cours aux agriculteurs de Steiner qui décrit comment faire ces préparations à base de plantes et d'organes d'animaux. À vrai dire, ça a été assez difficile, j'ai fait plusieurs tentatives avec différentes personnes de me dire tiens, et si c'était le personnage du film et on essaye, on fait des tournages et tout ça. Et ça marchait pas toujours, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses jusqu'à ce que je trouve des personnes avec qui c'était fluide et... Et en fait, au départ, j'aurais voulu filmer seulement une famille qui faisait de la biodynamie. Et comme c'était compliqué, je me suis dit, ben, je vais ouvrir plutôt vers un film choral avec plusieurs personnages. Et là, donc, il y a plusieurs personnes.
Oui, parce que, enfin, moi, ce que ça m'éveille comme idée, comme ça, il n'y a pas une biodynamie. Il y a plein de manières d'aimer la terre et de s'en occuper, suivant chacun ses croyances, ses habitudes et ce qu'on fait aussi. C'est pas une science prédéfinie en tant que telle.
Non, exactement. C'est tout à fait ça. Il y a autant de biodynamie que de gens qui la pratiquent. Et les biodynamistes, ils diront qu'il faut se l'approprier, en fait. Effectivement, il y a des gens comme Steiner et d'autres qui ont décrit des méthodes, etc. Mais après, chacun se l'approprie, le fait à sa façon. Et finalement, plus que la biodynamie, c'est vraiment le lien que chacun crée avec le vivant et qui est très intime.
Et l'expérimentation qu'on se fait en apprenant comme ça. Cette manière, justement, de tisser ce lien petit à petit qui prend valeur, quoi, en fait. Hein. Alors, et tout ça qui nous amène au vide. On passe quand même par le grand vide, à un moment donné, ce vide qui n'est pas vide. Ça, c'est pareil, c'est une question très philosophique, finalement, que tu poses là derrière, à travers cette histoire de biodynamie.
Ouais, complètement, parce que comme c'est une enquête, voilà, on va un voyage, on va dans différents domaines, et à un moment, j'explore un peu le monde des particules subatomiques. Parce que la physique, ça me passionne. J'ai lu pas mal de bouquins sur la physique quantique. Ce que je trouve magnifique, c'est que ça ouvre nos perceptions. On se rend compte, en découvrant cette physique, que le monde est beaucoup plus vaste et différent que ce que nous, on perçoit. Et effectivement, je pense que c'est la base de la réflexion philosophique, c'est de réaliser qu'on perçoit qu'une petite partie de la réalité. Et d'imaginer, de s'amuser à imaginer qu'est-ce que c'est en fait, comment ça se passe. Et dans le monde des particules, il se passe des choses folles.
Ah oui, c'est immense en fait.
Et du coup, c'est très poétique et moi, ça me plaît de questionner la science de façon poétique. Je trouve ça important.
Oui, ça permet de vulgariser un petit peu quelque part ce questionnement. Et on peut se l'approprier grâce à la poésie en fait. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir une réflexion scientifique finalement.
Moi, je pense qu'il faut se l'approprier, voilà. Alors après, souvent, il y a des gens qui disent « Oui, mais la physique quantique, il faut être un physicien pour pouvoir en parler et tout ça. » Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un entre-deux entre s'en tenir à la première page de Wikipédia et avoir fait 20 ans de physique. Je pense qu'il y a un entre-deux et qu'il faut s'en emparer.
Ou comme dit aussi une des personnes quoi, dans ce film, il suffit d'observer des oiseaux, un groupe d'oiseaux en train de voler. Et là, on peut voir quelque chose, comment ça se passe, les particules entre elles et... une vision un peu de ce que c'est, cette physique des particules. C'est une belle manière de vulgariser, de le voir.
Voilà, ça c'est ce que nous, nous raconte Marc-Henri, donc, qui est chimiste et qui connaît bien la physique quantique, qui l'enseigne à la fac de Strasbourg et qui dirige un labo de chimie là-bas. Donc voilà, c'est un vrai scientifique et il nous parle de ça et de sa théorie de la mémoire de l'eau. Enfin, c'est pas sa théorie à lui, mais il travaille.
D'un asiatique, il me semble, d'un chinois.
Non, en fait, la mémoire de l'eau, à l'origine, c'est Jacques Benveniste. C'est un biologiste qui a fait des expériences qui ont abouti à cette proposition de mémoire de l'eau, d'idée de mémoire de l'eau. C'était dans les années 70-80, je pense. Et c'est une théorie qui est restée très controversée, mais qui n'a jamais été vraiment tranchée. De toute façon, en science, il n'y a presque jamais rien qui est tranché. C'est toujours en évolution. Mais en tout cas, c'est une théorie très... très marginale dans le monde de la science. Et pourtant, elle est vraiment passionnante et vraiment intéressante. Et lui nous en parle très bien.
Alors, ce qui est beaucoup moins marginal dans le monde de la science, avec juste un peu d'observation, quand on parle pour cette particule, et la biodynamique quand même qui parle aussi du cosmos, hein, derrière, hein, on parle de toutes les planètes, on visite un peu aussi l'espace à travers ton film. Quand on regarde un atome, comment c'est fait, ça fonctionne pareil, un système solaire. On peut dire, cette vision du macro au micro, hein, qui se passe...
Ouais. Complètement, ben ouais, là tu fais une analogie entre une planète et...
Et une cellule.
Et une cellule ou un électron, et moi aussi j'ai ces images dans la tête et je fais ces liens. Et c'est vrai que j'avais envie dans le film de montrer ces associations d'idées comme ça, ces liens en fait.
Oui, parce que dans la biodynamie, les astres comptent, si je ne me trompe pas. La Lune compte énormément, hein, c'est peut-être l'astre principal hein, qu'on utilise dans la biodynamie.
Oui, alors la Lune est très importante, le Soleil évidemment... Et effectivement, toutes les planètes du système solaire sont prises en compte. Il y a un calendrier planétaire, donc c'est plus que le calendrier lunaire. C'est-à-dire que toutes les interactions des planètes ont une action sur le vivant, sur la Terre. Et voilà, on sait que la Lune, elle agit sur l'eau, sur les océans, les mers. Et donc, on se dit qu'elle, sans doute, elle agit sur nous aussi, puisqu'on est fait d'eau.
Ça serait logique.
Ça serait logique. Et dans le même ordre d'idée, si la Lune et le Soleil ont une action, pourquoi pas les autres planètes?
C'est donc, là où on perd les plus cartésiens de nos auditeurs.
Voilà. Qui se disent, oula,
c'est quoi ce film?
Je vais rallumer France Info, ce sera plus stable.
Et pourtant, c'est dans ce film qu'on est dans le vivant, quoi, en fait. Voilà, tu dis, je vais rallumer France Info, on s'éloigne. On va avoir de l'info de loin. Et là, on est vraiment dans le vivant et dans le concret dans ton film, quand même. On est dans la terre. On est là.
Ben oui, parce que ça reste des agriculteurs, des agricultrices. Ils font pousser des légumes. Et au passage, j'invite tout le monde à goûter les légumes biodynamiques. Moi, je les trouve extraordinairement bons. Ils ont vraiment du goût, en fait. Et ça, après, c'est ce que nous expliquent les bourguignons.
Alors toi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aborder ce sujet? Quelle est ta préoccupation de ton point de départ?
Eh ben, au tout départ, l'envie, c'était cet invisible. C'était comment je peux filmer l'invisible.
D'accord.
Mais au tout début, ce qui m'intéressait, c'était les magnétiseurs. Donc des gens qui soignent à distance. Sans toucher le corps, ils vont soigner le corps. Alors je me disais, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans cet invisible entre les mains du magnétiseur et mon corps, par exemple? Et puis, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de filmer les magnétiseurs. Et puis, le hasard a fait qu'on m'a parlé de la biodynamie. Et donc, je suis allée explorer cette pratique. Et ensuite, j'ai voulu trouver des liens avec la physique quantique, la chimie. Et voilà, je les ai faits.
Ça, c'est le propre de la recherche. On ne trouve que ce que l'on cherche. Et donc, on fait des liens comme ça dans la recherche scientifique aussi. Hein. C'est pas évident de faire une véritable découverte scientifique. Si on la cherche pas, c'est le fruit d'un hasard.
Ouais, tout à fait. Et puis, voilà, pour moi, c'est important ce lien entre science, rationalité, logique et poésie, intuition, imaginaire. Et en fait, tous les scientifiques te diront que... Enfin, les plus grands scientifiques et les plus grandes découvertes ont été faites... dans des rêves ou par intuition, par synchronicité. Il y a beaucoup de choses qui se découvrent par le biais de l'intuition et de l'imaginaire. Donc les deux sont liés, en fait, on ne peut pas les séparer.
Alors après, dans le titre de ton film, il y a l'onde aussi. Cette onde dont tu parles alors. Alors ici, on est à la radio, c'est assez marrant. Est-ce que tu crois que l'onde de ce qu'on est en train de dire, quand ça va partir dans les ondes, ça va devenir de la matière à un moment donné un peu plus tard?
Oula. Là, on va perdre encore des auditeurs.
Là, ouais.
Mais bah alors ça, c'est ce que dit le chimiste. Qui dit onde dit matière, qui dit matière dit onde. Apparemment, oui, les deux choses seraient comme deux manifestations du réel. Il y a une partie qui est sous forme vibratoire et l'autre sous forme de matière. L'un et l'autre sont liés. Et nous, on perçoit que la matière principalement, mais...
Et pourtant, on est constitué essentiellement de vide.
Ouais. En plus.
Malgré tout.
Et d'eau.
Et d'eau. D'eau, mais voilà, nos atomes, il y a beaucoup de vide entre eux. Il y a de la matière qui gravite entre eux, autour d'un noyau. Moi, c'est une grande question que je me suis toujours posée. C'est le tas de vide qui est en moi, quoi, en fait. Il n'y a pas tant de matière que ça, finalement. Et c'est quoi le reste?
Ouais, ça, c'est ma grande question. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est les questions. Et dès que les réponses se figent un peu, ça, c'est moins intéressant, je trouve.
Alors, c'est ça qui est intéressant dans ton film, c'est que ça soulève beaucoup de questions et ça donne envie d'aller voir de ses propres yeux ce qui se passe, tout ça. Ça, c'est une chose super intéressante. Alors, après, au niveau de l'image dans ce film, il y a quand même de très belles images que tu travailles autant en macro, en fait. Hein, on découvre des cœurs de plantes et des choses super belles, autant que de beaux paysages, mais aussi une terre en fusion. Enfin, on la découvre dès le tout début. Pourquoi cette image?
Ah oui, tu parles de l'image de la Terre vue depuis l'espace,
ouais,
depuis la station internationale.
Ouais, qui est en train de tourner. D'un seul coup, on voit une espèce de grand feu immense. C'est quoi cette image?
En fait, c'est des images de la Terre la nuit dans des zones où il y a beaucoup de zones urbaines illuminées.
Tout simplement.
Tout simplement. Et c'est vrai que les gens se demandent, mais c'est quoi? C'est un incendie? Non, non, c'est la Terre la nuit, là où il y a des villes, en fait.
C'est fou, on aurait dit vraiment une Terre en fusion. Vraiment, vraiment.
Ouais, c'est vrai que c'est une image assez apocalyptique. Et le début du film est très sombre.
Oui, faut le dire, c'est vrai.
Ouais. Le début du film est très sombre. Je fais un constat assez désespéré. Pour moi, c'est ironique, mais les gens le perçoivent plus ou moins. C'est comme ils veulent. Mais... Et puis ensuite, on va basculer dans un monde qui se réenchante au fur et à mesure de mes découvertes, de mon enquête. Mais au début, je fais un constat assez sombre.
Oui, tu pars d'un vide. Et après, tu te rends d'un constat même de solitude et de se rendre compte à la découverte du monde qu'en fait, on n'est absolument pas seul et ça grouille de vie partout autour de nous.
Voilà.
C'est un peu comme ça que j'ai vécu, moi, l'aventure en regardant ton film.
Bah, c'est génial. Moi, c'est le chemin que j'ai fait aussi intérieurement dans toutes ces recherches, toutes ces lectures, tous ces questionnements et toutes ces rencontres. Ça m'a vraiment nourri. Ça a vraiment nourri mon cœur, comme je le dis. Et c'est vrai que souvent, l'état de la planète... fait vraiment peur et fait mal aussi, mais heureusement qu'il y a de belles choses qui se passent.
Il y a une phrase aussi que je note dans ton film qui m'a beaucoup plu. Ce ne sont pas les choses qui sont invisibles, c'est moi qui avais les yeux fermés. Et je trouve que voilà, ça résume bien notre approche du monde des fois où il suffit juste d'ouvrir les yeux quand on ne sait plus trop quoi penser.
C'est un peu ce que je disais sur la physique quantique, c'est l'ouverture de la perception. C'est quand on découvre des nouvelles dimensions en fait, dans le réel, quoi. Le monde est loin d'être juste ce qu'on perçoit avec nos yeux, nos oreilles. C'est tellement plus que ça.
C'est tellement grand, effectivement.
Et en fait, cette ouverture-là, ce mystère finalement et ces questions, ça, j'ai l'impression, moi, ça m'a connecté à la beauté et du coup à la beauté du vivant. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que le film, c'était pas un film sur la biodynamie ou les particules ou l'eau ou des sujets comme ça, mais c'était un film sur le lien entre les vivants. Et en fait, tous ces gens qui pratiquent la biodynamie, au-delà de militer pour ça, on voit dans le film, je crois, qu'ils sont heureux en le faisant. Ça leur apporte, se relier au vivant, ça leur apporte beaucoup de bien-être, en fait. Et c'est contagieux, en fait. Ce bien-être, il est contagieux.
Oui,
et je pense que c'est seulement quand on se connecte intimement comme ça au vivant. Par exemple, quand je filme une fleur qui s'ouvre, je me relie intimement à la fleur. Et quand j'ai fait cette expérience de ce lien intime, après, j'ai juste envie de soigner. J'ai pas envie de détruire.
Oui, d'entretenir cette beauté, oui. Je comprends tout à fait ça. Ça m'éveille à une chose, voilà. C'est que ça donne une vision assez holistique de la planète. Finalement, la biodynamie, c'est ni plus ni moins qu'une vision holistique de prendre la Terre dans son ensemble, comme un organisme à part entière, et nous qui faisons partie de cet organisme.
Ouais, oui, complètement. C'est ça, c'est encore cette fois l'élargissement de la perception, c'est-à-dire, ben, par exemple, la Terre n'est pas isolée et ça ne peut pas cadrer avec une vision productiviste où la Terre est un truc inerte qu'il faut cravacher avec des engrais et tout ça. Ben non, la Terre, en fait, c'est un organisme vivant. Dans la biodynamie, c'est considéré comme un être vivant, la planète. C'est quelqu'un. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un. Et dans la biodynamie, voilà, on peut dire que c'est quelqu'un. Qui fait partie d'un système. Le système solaire interagit, les planètes lointaines interagissent. Donc du coup, on est obligé d'ouvrir et de prendre en compte. Et ça rejoint des notions d'interdépendance. Tout le vivant est interdépendant.
Alors, et puis quand on ouvre comme ça, on ne sait même pas où est la fin. Où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence?
J'ai appris que le pissenlit entretient une liaison secrète avec Jupiter. Oui, Jupiter. La planète qui se trouve à 591 millions de kilomètres de la Terre. J'ai ressenti, comment dire, une sorte de vertige.
Alors, quelle va être la suite pour ce film-là, du coup ? Comment il va tourner ?
La prochaine projection, vraiment dans des conditions de cinéma, ce sera au Festival de Jindou le 26 août.
D'accord.
Et puis, je suis très contente parce qu'il a déjà été sélectionné dans deux festivals. Alors, le Festival Interférence à Lyon en novembre et le Festival Alimentaire à Bruxelles en octobre. Voilà.
Bon, alors pour ce film, j'invite vraiment moi les auditeurs à se rendre donc le 26 août, tu m'as dit, ce sera donc au Festival de Jindou. Je les invite vraiment à venir découvrir, à le découvrir, te découvrir aussi, parce que du coup tu vas le présenter ton film.
Oui.
Ça va être le début d'une aventure, comme ça aussi présenter tes films.
Alors je vais présenter le film et ça va être un grand moment pour moi parce qu'il y aura Virginie qui m'a aidé à monter le film. On l'a monté à quatre mains, une monteuse formidable que j'adore, c'était génial le montage. Elle sera là. J'espère qu'il y aura Lydia et Claude Bourguignon, donc des personnes que j'admire énormément, que j'aime beaucoup aussi. Et peut-être qu'il y aura Christophe le Vigneron et Aude la Maraîchère. Donc il y aura beaucoup de protagonistes du film et il y aura Thomas Bougnor qui m'a aidé à produire le film. Donc il y aura beaucoup de partenaires, de complices et ce sera un grand moment pour moi.
Ah ça c'est bien, tout le staff qui sera là avec toi.
Ouais.
Très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Dune, autour de ce film ? On pourra en parler pendant longtemps. Le mieux, c'est de le voir, hein, de toute façon.
Oui, venez voir le film et laissez-vous embarquer dans le voyage. Il y a des choses peut-être surprenantes, mais si vous avez envie d'aller jusqu'au bout, on peut en discuter tranquillement.
Des choses surprenantes, mais quand on les regarde avec le cœur, on se rend compte finalement, c'est pas si surprenant que ça. Si surprenant que ça, ça paraît juste logique.
En tout cas, voilà, le débat est ouvert et il faut en parler. Et s'il y a des choses qui nous heurtent, on peut vraiment en parler, il n'y a aucun tabou. Voilà.
Très bien, merci beaucoup, Dune.
Merci à toi.
Merci, Régis.
Merci, Régis.
De rien, merci.
Nous étions avec Dune Dupuis à propos de son film « Les graines, les particules et la lune ».
Ce qui me touche le plus, c'est que ces paysans essaient de soigner la terre.
Comme disait Jackie ce matin, c'est la période où la vie, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie, mais
c'est parce qu'elle est souterraine, elle est dans le sol.
Et ça empêche les chiens de gratter aussi.
Steiner dit que la terre reçoit des influences de la lune et du soleil, et par extension de toutes les planètes du système solaire. Même les plus lointaines. Il dit aussi que les substances, toutes les substances rayonnent à des doses infimes. Et des substances venues des tréfonds de l'univers rayonnent elles aussi sur Terre.